Radio Okapi.
Maisha bora.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Maïcha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Capi. Nous vous parlons aujourd'hui du traitement de l'épidémie de la maladie à coronavirus ou Covid-19. Marcel Ngombombala est à la présentation de ce nouveau numéro de Maïcha Bora. La mise en onde est assurée par Bob Landou sous la supervision de Jean-Marc Matraki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Le coronavirus continue à faire de ravages dans le monde. À ce jour, on estime à plus de 600 000 le nombre des personnes contaminées dans le monde par le coronavirus. En RDC, à l'heure actuelle, plus de 60 cas de coronavirus ont été recensés, dont 3 patients guéris. Alors, quel est à ce jour le traitement préconisé contre le coronavirus? Et comme vous le savez, il n'y a pas encore de traitement spécifique à cette épidémie, mais de plus en plus de chercheurs s'accordent sur un schéma thérapeutique très prometteur pour avoir donné des résultats satisfaisants chez des patients soumis à ce traitement. Nous en saurons davantage au cours de ce nouveau numéro du magazine Maïcha Bora avec notre expert, le professeur Jean-Marie Kaïmé. Il est responsable de la prise en charge des patients du Covid-19 en RDC. Mais avant, nous vous proposons de suivre le témoignage de ce tout premier patient congolais testé positif au coronavirus et guéri du Covid-19 ici à Kinshasa au bout de 14 jours de suivi médical.
Il n'y avait pas grand-chose. Ils nous ont reçu, ils nous ont dit que moi j'étais porteur du virus. J'étais même pas au courant, chose que quand on dit des trucs comme ça, il faut accepter. J'ai accepté. Ils m'ont dit qu'ils vont me mettre dans l'isolement pendant au moins 14 jours. Le médecin, il passait de temps à autre pour élever la température et des trucs. En fait, quand ils ont remarqué que la température, c'est toujours constant, 36, 36,5, des trucs. Donc, il n'y avait même pas de fièvre, même rien du tout. Et en fin de compte, ils passent même plus. Ils viennent plus me relever de la température, le truc comme ça. Bon, il vient juste pour prendre l'attention et demander si c'est bon ou c'est pas bon.
Pendant les 14 jours, quels sont les soins que vous avez pu bénéficier en dehors du prélèvement de la température et de la tension?
Rien du tout, rien du tout. J'avais quelques médicaments que j'ai continué à prendre et c'est tout. Après, quand c'est fini, c'est fini.
C'était quel médicament que vous preniez?
C'est juste le médicament qu'on m'avait prescrit. Quand je suis allé voir un médecin, c'était au matin. Après, dès que c'est fini, je prends plus rien. Donc après, ils sont passés pour élever, pour aller faire des examens encore. Et ils ont trouvé qu'il n'y a rien. Alors voilà, c'est tout ce que je sais.
Est-ce que vous aviez droit à des visiteurs, même à distance, qui pourraient vous apporter à manger?
On a exigé à ce que les gens ils viennent quand même nous donner, ne puissent qu'à manger. Mais on n'a pas le droit de parler avec eux. On est tout le temps enfermés. Et le problème est que si quelqu'un il vient avec quelque chose à manger ou quoi que ce soit, il nous appelle et moi ou ma femme elle sort à l'extérieur et le monsieur qui ramène quelque chose il doit donner à un policier et le policier va nous ramener. C'est toujours ça. Mais il n'y a pas de visite comme quoi qu'on peut parler, non, on n'arrive pas.
Et en ce moment même où vous parlez, comment vous vous sentez? Comment se présente votre état de santé?
Je suis en super forme. Même eux-mêmes, le médecin qui passe ici, ils me voient. Je suis très bien. Je me porte bien. Ma femme également. Donc, je vois pas, je sais pas combien de fois je leur dis et de faire un rapport qu'on est bien, on est super de nous libérer. On n'a même pas de symptômes, on n'a rien, on n'a pas de fièvre, on n'a pas de truc qu'on est. Donc, je comprends plus rien, je comprends pas.
Et qu'est-ce que vous demandez à ce stade au ministère de la Santé et particulièrement au ministre de la Santé qui vous écoute?
Qu'on nous fait sortir d'ici, on ne peut pas rester ici. En plus, à l'endroit où on était le premier à venir ici. Mais là, maintenant, ils ramènent de malades, ils ramènent de malades qui sont atteints. Mais nous, on est là. Il faut nous protéger. Si on n'a rien, il faut nous protéger. On ne peut pas rester dans un endroit où il y a d'autres malades. On risque d'attraper d'autres choses. Il n'y a pas que Corona qui tue. Il peut y avoir d'autres maladies aussi.
Au moment où nous parlons, on enregistre déjà en RDC quelques cas de décès dus au coronavirus et plusieurs autres cas de contamination. Quels conseils prodiguez-vous à la population congolaise pour faire face à cette maladie qui tue énormément en Europe, en Chine et actuellement aux États-Unis?
Franchement, cette maladie, il ne faut pas se passer de ça.
Donc faut tenir compte de tout ce que les autorités disent. Donc c'est vraiment un fléau, je ne sais même pas comment le qualifier. On doit conscientiser toute la population. Franchement, c'est quelque chose qu'on doit prendre à cœur. Donc moi, je pense qu'ils ont raison, les autorités, à prendre toutes ces décisions.
Et pour ceux qui sont déjà infectés et qui sont en ce moment en isolement, peut-être pour leur premier, deuxième, troisième jour, pour vous qui avez déjà fait plus de 14 jours en isolement, quels conseils et réconforts vous pouvez donner aux nouvelles victimes de cette épidémie aujourd'hui?
Le seul conseil que je vais leur dire, c'est de rester calme et de suivre ce que le médecin y dise. Car le médecin, ils sont mieux formés et mieux informés aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Comme nous l'avons dit, selon les experts, il n'y a pas encore à ces jours à proprement parler d'un traitement spécifique contre le Covid-19, mais il y a tout de même un schéma thérapeutique très prometteur qui donne déjà des résultats satisfaisants chez des patients du Covid-19 qui ont été soumis à ce traitement. C'est ce que nous affirme le professeur Jean-Marie Kaim.
Nous avons répété à maintes reprises que contre ce virus, il n'y a pas de traitement spécifique. Les études sont nombreuses à travers le monde. D'ailleurs, vous avez suivi hier le décret du Premier ministre en France qui permettait que l'on adopte une molécule, parce qu'elle a eu ses preuves, notamment en Chine, mais également ailleurs. C'est l'hydroxychloroquine que nous avons positionné depuis un temps, et nous nous sentons en cela réconfortés comme étant une des propositions dans le schéma national. Nous avons opté pour une association de certains antibiotiques, c'est l'azithromycine éventuellement, mais je me répète, ces traitements ne sont pas spécifiques du Covid. Simplement, des recherches ont montré que l'administration de ces patients, de ces médicaments aux malades, permettait de réduire de manière très sensible la charge virale. Des essais thérapeutiques sont en cours, proposant éventuellement d'autres schémas, notamment des médicaments chez nous à l'heure actuelle utilisés dans le traitement du VIH-SIDA. Nous avons proposé aux décideurs un schéma thérapeutique qui est celui que nous adoptons chez nous, en restant flexible à l'écoute bien sûr de l'évolution dans le monde scientifique. Il y a plein de papiers qui sortent et qui pleuvent, je le dirais, de partout, mais nous restons vigilants et attentifs. Le mieux étant, avec les médicaments, la première et le mieux, c'est ne pas nuire. Voilà. Et puis, il y a le traitement symptomatique de la fièvre en évitant, voilà le message qu'il faut dire, l'usage des anti-inflammatoires, comme le diclofénac, le voltarène chez nous, qui, des études l'ont montré également, aggravent de manière tout à fait dramatique le tableau des patients. Donc, il faut éviter les anti-inflammatoires, comme le dit diclofénac, privilégier un antipyrétique, en particulier le paracétamol, qui n'est pas un produit à base d'anti-inflammatoires. Mais, à côté de tous ces traitements, etc., l'accent le plus important et le meilleur demeure les mesures de prévention pour ne pas y arriver.
Donc, à l'instar d'autres pays du monde qui ont opté à l'heure actuelle pour ces schémas thérapeutiques, la RDC est également sur la même voie du fait que ces traitements a démontré une certaine efficacité, mais cela n'empêche, comme le souligne notre expert, de suivre de très près tout ce qui est en train d'être mené comme recherche à travers le monde.
Aujourd'hui, en ce qui concerne la durée, nous vous disons que nous n'avons pas une panacée particulièrement inventée dans notre pays. Nous sommes partis des essais thérapeutiques publiés en Chine, les premiers à avoir commencé, en France, en Italie et ailleurs. Donc, en général, nous avons proposé à l'heure actuelle dans notre pays un traitement maximal de 10 jours. Je me répète, ce traitement a montré à l'heure actuelle une efficacité dans certaines associations. Nous ne pouvions pas ne pas nous y accommoder et surtout nous impliquer là-dedans, en demeurant encore attentifs à tout ce qui peut, dans ce domaine, nous parvenir de partout. Avec Internet et vous, les hommes de presse, aujourd'hui le monde est un village que l'on peut parcourir en quelques secondes. Donc nous demeurons flexibles en suivant au jour le jour, minute après minute, l'évolution dans le domaine scientifique.
Vous avez suivi au début de ces magazines le témoignage de ce tout premier patient congolais testé positif au coronavirus et aussi le tout premier à être guéri de cette maladie, d'où la question de savoir à quel moment peut-on dire qu'un patient du Covid-19 est guéri et une fois guéri, peut-on encore être contaminé? Les éléments de réponse avec le professeur Jean-Marie Kaimbi.
Je dois vous dire que nous sommes là en présence d'un virus nouveau qui n'a pas encore livré réellement tous ses secrets. Mais de manière globale, lorsqu'on attrape une infection, qu'elle soit bactérienne ou virale, microbienne, il y a la défense immunitaire de l'organisme qui peut-être soit humorale. Il produit des anticorps, les immunoglobulines, les IgM, mais ces anticorps restent parfois, il y en a moins, d'avoir fait une infection, nous les appelons les IgG. Ils peuvent durer très longtemps dans l'organisme. Quant à dire, déclarer un patient guéri, la guérison, elle a quelques volets. Le premier, c'est ça, le volet clinique. Le patient qui faisait de la fièvre, qui avait des difficultés respiratoires, qui ne sent plus rien, qui reprend de l'appétit, qui reprend le goût, qui reprend à sentir les odeurs, etc. Voilà les signes de guérison clinique. Mais la guérison doit pouvoir être confirmée également, autant que le diagnostic l'a été, par des tests de laboratoire. Comment est-ce qu'on dit qu'une personne a un coronavirus? Il y a bien sûr aussi ce faisceau d'arguments cliniques accompagné des arguments épidémiologiques qui montrent qu'il y a eu un contact éventuellement avec un sujet malade ou un sujet qui a récemment revenu d'un voyage, comme c'était le cas, mais là nous avons des contaminations locales. Ça, ce sont déjà des arguments d'orientation du diagnostic. Le laboratoire dit ce sujet est testé positif. Et vous avez bien remarqué, souvenez-vous de Lubumbashi, jusqu'aujourd'hui l'INRB est le seul laboratoire dans notre pays à même de confirmer le diagnostic par des tests qui sont faits de manière méticuleuse et qui utilisent les moyens de la biologie moléculaire. Ce sont ces tests-là qui confirment. Et si le malade, après avoir reçu son traitement symptomatique et le traitement que nous appelons spécifique, eh bien, on refait un contrôle, il n'a plus il n'est plus positif, il est négativé, là on peut se dire que ce patient-là a bien évolué, a récupéré sur le plan clinique. Pourquoi dis-je a bien évolué? Parce que vous voyez, par exemple, pour la maladie à virus Ebola, on a déclaré des personnes guéries, absolument. Mais nous ne connaissons pas encore tout sur ce virus. La personne qui est déclarée, qui a viré son test de positif à négatif, à mon avis, c'est une personne a priori qui n'est plus susceptible de transmettre éventuellement la maladie. C'est un peu ça. La notion de guérison d'une maladie peut être, elle aussi, une notion dynamique qui peut évoluer en tenant compte de données d'épidémiologie, de données cliniques, mais essentiellement aussi de données de laboratoire. Le virage d'un test de positif à négatif doit pouvoir être pris en compte. Voilà un petit peu ce qui peut permettre de dire à l'heure actuelle qu'un patient est guéri, en espérant ne pas être contredit par l'évolution des données scientifiques à brève ou longue échéance.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche en cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment Maïcha Bora, votre magazine de santé et bien-être. Nous parlons aujourd'hui du traitement de l'épidémie de la maladie à coronavirus qui se propage à grande vitesse dans le monde avec à ce jour plus de 600 000 personnes contaminées. En RDC, à ce jour, plus de 60 cas ont été recensés, dont 3 guérisons. Selon l'expert congolais, le professeur Jean-Marie Kaimbi, responsable de la prise en charge des patients du Covid-19 en RDC, il n'y a pas encore de traitement spécifique du coronavirus à l'heure actuelle, mais cependant, un schéma thérapeutique prometteur à base de la chloroquine qui donne des résultats satisfaisants chez des patients soumis à ce traitement ont été réalisés dans certains pays. Néanmoins, nos recherches se poursuivent avec d'autres schémas thérapeutiques. Et au vu de résultats prometteurs du traitement à base de la chloroquine, il y a des gens qui recourent à l'automédication. Ils n'hésitent pas à se procurer des médicaments associés à la chloroquine. Selon eux, c'est une façon de se protéger contre le coronavirus. D'autre part, il y a également des personnes qui recourent à des plantes comme les Congo Bololo ou des breuvages à base de tangawis ou encore de l'alcool frelaté. Eh bien, ce sont des comportements évités, comme le souligne le professeur Jean-Marie Kaimbi.
Décourager absolument ce type d'attitude. La chloroquine n'est pas un médicament à prendre à titre préventif. Alors, c'est pas un vaccin. Attendons éventuellement le développement d'un vaccin pour. La chloroquine n'est pas dépourvue d'effets toxiques, je voudrais vous dire, qu'elle a déjà des effets toxiques sur la vision, le nerf rétinien. Il peut entraîner une toxicité au niveau ophtalmologique, mais également au niveau du cœur, une toxicité du myocarde. Donc, remarquez que ce n'est pas une molécule qui doit être manipulée comme on veut, sans contrôle médical éventuellement. La prévention, lorsqu'on n'a rien, en prenant de la nivaquine, la chloroquine, nivaquine, il ne faut pas la faire, ça ne sert strictement rien. Ça ne peut qu'amener chez des individus qui croient pouvoir être protégés par ça, des effets indésirables qui peuvent même être totalement, graves. Donc, décourager la prise de la nivaquine par prévention, parce que la meilleure prévention est celle d'observer les mesures préventives prônées par tous à l'heure actuelle. Notamment, nous allons demain entrer en confinement, c'est toujours dans, au regard de l'évolution de l'épidémie, des mesures que prennent les décideurs politiques en vue de contenir davantage la transmission.
Et professeur, votre avis également, parce qu'il y a une ruée qu'on est en train de constater en ce qui concerne le Congo Bololo, les tangawisi, l'alcool frelaté. On dit que non, l'alcool frelaté, puisque le virus reste pendant un moment au niveau de la gorge, ça permet de tuer le virus.
Mon ami, je suis un scientifique qui demeure totalement prudent. Tant que nous n'avons pas des données basées sur l'évidence, il m'est extrêmement difficile de vous dire il peut protéger ou il ne peut pas. Dans une circonstance comme celle-là, je pense qu'il faut décourager d'abord la rumeur. Nous avons des chercheurs dans ce pays, notamment des amis du domaine de la pharmacie, qui peuvent, en regardant les extraits que contient le Congo Bololo, ils connaissent cette question. Ils nous diront si ces extraits ont, même dans la pharmacopée traditionnelle ou dans la littérature médicale, voir si dans ce produit il y a des substances qui peuvent avoir une action sur la stabilisation ou la destruction des virus. C'est connu. Alors, cette question, soyons humbles, je ne suis pas pharmacien, je la répercuterai auprès de mon ami, le professeur Messia, qui certainement me répondra de manière plus précise et orientée sur les vertus éventuelles de Congo Bololo. En bref, dans ces conditions-là, l'abstinence et la prudence sont plutôt la règle.
Un avis également partagé par Faustin Kabeya, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Pour cet expert, l'automédication est à décourager, et également l'usage des plantes telles que le Congo Bololo et autres produits traditionnels.
Écoutez, je suis en train de constater avec vous la chloroquine. On en a parlé dans les canaux scientifiques, parce que normalement, l'usage d'un médicament hors autorisation de mise sur le marché, comme c'est le cas avec la chloroquine, normalement, c'est une information qui passe par le canal de médecins, pharmaciens, infirmiers. Ça ne devrait pas tomber entre les mains des malades. Parce qu'aujourd'hui, c'est chaque malade qui va sur Internet et qui trouve même un schéma thérapeutique à base de chloroquine. Alors, il est question ici de rappeler que nous sommes devant une maladie virale. Et la maladie virale, par définition, est soignée préventivement par un vaccin, n'est-ce pas?
Oui.
Et même quand il y a un vaccin qui existe, dès qu'on attrape la maladie, ce n'est plus le vaccin qui va vous soigner, sauf pour des cas rares comme la rage. Mais sinon, c'est plutôt un sérum qui pourra vous soigner peut-être. Et ici, on amène la chloroquine comme un antiviral. Et cela reste à prouver, parce que depuis tout le temps, la chloroquine n'a pas été utilisée comme un antiviral. C'était un chizonticide utilisé contre la malaria. Les scientifiques demandent un peu de temps pour prouver que réellement la chloroquine peut soigner le virus de coronavirus. Alors, même si c'était le cas que la chloroquine était un antiviral prouvé, il n'est pas question de prendre la chloroquine en prévention. On ne peut pas instaurer un schéma de prévention avec la chloroquine, vu ses effets indésirables que nous connaissons tous. Et d'autre part, la chloroquine a été enlevée du marché congolais il y a plus de 10 ans de cela. Ça signifie tout simplement que dans nos pharmacies, la chloroquine n'existe plus comme arsenal thérapeutique contre la malaria. Nous avons eu dans nos pharmacies, et ça c'est un drame, parce que nous avions l'hydroxychloroquine, appelée plaquenil, n'est-ce pas ? Nous avions ça pour des malades spécifiques. Je suis en train de vous dire ici que nous avions en stock du plaquenil. Oui. Mais c'était pour une forme de rhumatisme chez certains malades. Oui. Et ces malades-là, aujourd'hui, ne trouvent plus leurs médicaments parce que tout a été raflé. Il y en a qui en ont fait du stock à la maison en attendant qu'ils attrapent le coronavirus et se faire soigner eux-mêmes. Il y en a qui ont pris ça et qui ont pris ça en prévention. Ils ont déjà fait leur cure d'une semaine et ils se disent désormais ils sont à l'abri. Mais tout ça est faux. Il faut rappeler ici à la population que la maladie est une maladie virale. Les mesures d'hygiène, les mesures de protection contre le virus sont à observer. Alors, j'en viens aussi à la prévention finalement traditionnelle, si je peux m'exprimer.
Mais avec le Congo Bololo,
le drame qui est arrivé à la famille à Mongafula. Mais ça, c'est encore une fois... il faut dire à la population que le médicament, même traditionnel, il est dangereux. Le médicament, on a toujours dit, c'est un poison, ça dépend des doses. Non, moi je dis plutôt, c'est un poison à toutes les doses. Ça signifie tout simplement que si on peut ne pas prendre le médicament, n'est-ce pas, s'en sortir avec les mesures d'hygiène, hygiène de vie en général, tant mieux, parce que le médicament reste un poison. À toutes les doses possibles, c'est un poison. Donc si on peut s'en passer, il faut s'en passer. Il ne faut pas prendre le médicament. Et il ne faut pas prendre le médicament traditionnel et chez soi, à la maison, sans dose, sans tenir compte de l'âge des enfants ou quoi. Mais ça, c'est criminel, c'est dangereux. Il y en a qui ont pensé Congo Bololo parce que c'était amertume. Ça serait peut-être un médicament contre la malaria, mais on a jamais eu des études sérieuses qui ont prouvé cela. Donc, pas de Congo Bololo contre le coronavirus, même si ça peut être amer comme la quinine, comme la chloroquine. Non.
Il est bon de le souligner, pas question d'automédication avec de produits à base d'hydroquinone et encore moins avec de plantes telles que le Congo Bololo. À l'heure actuelle, le traitement s'est fait en milieu hospitalier. Dès que l'on est diagnostiqué positif au Covid-19, comme ne cesse de le répéter le professeur Jean-Marie Kaembe, la RDC a opté actuellement pour un schéma thérapeutique qui a fait ses preuves, mais bien entendu, avec les recherches en cours, il n'est pas exclu qu'on expérimente d'autres schémas thérapeutiques du moment qu'ils sont. Scientifiquement, l'efficacité de guérison sera prouvée à travers le monde aussi bien pour les formes simples ou sévères du coronavirus.
Chez nous, au Congo, nous avons opté pour l'hydroxychloroquine ainsi qu'un antibiotique, l'azithromycine. Mais vous voyez, c'est dans les structures médicales. Parce que comme je vous dis, si dans deux semaines, regardez la France, l'hydroxychloroquine au début a même été décriée en tous sens. Mais depuis hier, elle est imposée par une décision politique, mais elle est imposée sur base de quoi ? De la recherche qui continue. Croyez-nous, chez nous aussi, nous avons un comité de pharmacovigilance qui va suivre tous les malades que nous allons traiter de cette façon-là, assez rapidement et à l'écoute du monde, parce que c'est une histoire qui concerne le monde entier, c'est une pandémie. Nous adapterons absolument nos traitements à l'évolution de la science.
Alors dites-nous, le traitement pour les formes simples de coronavirus et pour les formes sévères.
Formes simples, formes sévères, je ne vous ai pas cité. Nous avons d'abord adopté en première ligne, c'est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine, comme je vous ai dit, qui est un antibiotique. Mais attention, cette association, nous sommes en période d'essai, je dois bien l'avouer, nécessite une surveillance médicale. Elle ne se fait pas. Je vous ai dit, les effets sur le cœur, les yeux, etc. Voilà pourquoi il ne faut pas la prescrire en officine libre, ni dans un petit, passez-moi le terme et je m'en excuse d'avance, dans un lit bleu, sans savoir ce que l'on doit monitorer ni contrôler. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Nous sommes en phase d'expérimentation et de surveillance rapprochée. Et cette phase de surveillance nous montrera peut-être que demain, on aura affaire à d'autres molécules beaucoup moins toxiques. On n'en sait rien à l'heure actuelle. Nous avançons. Le coronavirus n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Eh bien, vous savez, 80% des sujets qui attrapent le coronavirus, c'est ce qu'il faut dire aux gens, ils passent de manière bénigne totalement, comme la petite grippe que certainement, monsieur Ngombo, vous avez dû faire dans votre jeune âge, etc. 80% sont dans cette forme bénigne, mais peuvent transmettre la maladie. Voilà, un petit peu, et même très facilement, parce que justement, on ne s'aperçoit pas qu'ils sont malades. Mais les signes de gravité sont notamment ceux généraux comme la fièvre, la température au-dessus de 38,5, ou le malade qui commence à avoir des difficultés respiratoires. Ce virus a un tropisme rapide pour le système respiratoire. Donc le patient qui n'arrive plus à respirer, vous voyez un petit peu ce que ça fait, il désature en oxygène. C'est un patient en fonction de la saturation en oxygène. Et ça, on peut l'avoir avec un petit gadget, un saturomètre. Dès qu'on est en présence d'une formation sanitaire, dès qu'on est dans une formation sanitaire, lorsque la saturation en oxygène diminue, descend en dessous de, déjà de 90%, 82%, ça indique la sévérité. La souffrance d'autres organes comme le cœur qui va s'emballer avec une augmentation du pouls, etc. La tension artérielle qui peut chuter. Surtout lorsque le malade est en choc. Il y a plusieurs signes de gravité qui nous orientent. Il y a des signes de bénignité également qui nous présentent devant des malades qui gardent encore une saturation dans les limites totalement acceptables. Je voudrais dire au-dessus, par exemple, de 95% d'oxygène. Je voudrais me résumer en disant simplement que la Chine a combattu, a vaincu, on peut le dire, cette épidémie de Covid-19 par la discipline. L'indiscipline peut nous entraîner dans une catastrophe indescriptible. Soyons donc disciplinés en ce qui concerne en particulier les mesures de prévention. Prévenir dans ces conditions vaut certainement que partout ailleurs, vaut certainement mieux que guérir.
Voilà la fin du magazine Maïcha Bora de ce jour consacré au traitement de l'épidémie de la maladie à coronavirus. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Bob Landou qui l'a mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matwaki au micro. Marcel Ngomombala, au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Maïcha Bora. D'ici là, prenez soin de vous.